Bonjour, bienvenue dans le monde moderne. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Kerr. Bonjour Nicolas, vous êtes le chanteur de Pony Hawks de Paris et vous sortez un album sous votre nom, Nicolas Kerr, Les Faubourgs de l'Exil, qui est sorti en début d'année. Oui. Donc un chanteur depuis des années. J'avais une première question à vous poser qui est sur le fait de se lancer sous son nom après avoir eu différents groupes. Est-ce que c'est un pas difficile? Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de sortir un album sous son nom?
C'est compliqué. Parce qu'en fait, quand je fais un album qui s'appelle Nicolas Kerr, c'est une volonté tyrannique à la base. Je vais faire le mec de Corée du Nord. Parce qu'après, en fait, quand je fais un groupe, je suis vraiment dans la concession. Mais aussi, je bosse pas dans n'importe quel groupe, je bosse avec des gens qui sont très très intelligents. Donc là, il faut que je fasse tout le temps des concessions. Et en fait, je me suis dit, ah, je vais faire Nicolas Kerr, hein, comme ça, je vais pouvoir faire mon Kim Il-jun comme je veux.
Kim Jong-il.
Voilà, Kim Jong-il, voilà. Et affamer la population si j'en ai envie. Hein. Et en fait, ça ne marche pas comme ça, en fait. Bien sûr.
Non, vous êtes entouré, voilà. Évidemment.
Et évidemment, on ne fait pas tout seul, je ne suis pas Prince, quoi. Voilà. Mais non, donc finalement, ça ne change pas tant que ça.
Bah, est-ce que ça change dans l'écriture? Est-ce qu'il y a des chansons plus personnelles? Dans
Paris, j'écris toujours les paroles, hein, donc, que ce soit dans Pony Hawks, dans Paris, dans tous les trucs où je chante, j'écris les paroles. Mais par contre, dans Paris, il y a des chansons que j'ai composées. Normalement, Nicolas Kerr, je compose tout à part Summertime. Non, c'est des vieilles chansons que je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on fout, hein.
Qui rentraient pas sous les cases.
Non, j'avais envie vraiment de faire le dictateur, mais finalement...
On y arrive
finalement, pas. En fait, c'est surtout que j'aime bien déléguer à meilleur que moi, en fait.
C'est bien. C'est, ça, c'est un principe de management. Voilà. Donc, vous êtes un bon manager.
Ouais. Enfin, où tu es. Moi, je trouve que c'est subit de tout vouloir faire, alors qu'il y a des mecs qui sont largement meilleurs que soi, en fait.
C'est une bonne idée, effectivement, de bien s'entourer. Ouais. Et le titre, les faubourgs de l'exil, ces faubourgs, c'est lesquels? Et on parle d'exil.
À la base, l'exil, bon, c'est l'exil. En fait, il y avait l'exil au Cambodge, etc. Mais c'est pas le pas de ça, en fait. Ouais. En fait, je sais pas, je trouve ça joli, en fait, de savoir exil. Je trouve que c'est un joli nom. Et je parlais du fait que, voilà, les mecs sont toujours à côté d'eux-mêmes, quoi. Voilà.
C'est ça, jamais habité en fait. Hein, toujours
non,
un peu
ça
en
dépend.
Marge, ou...
ça dépend. En fait, y a des gens qui sont à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont super contents. Mais je ne sais pas qui sont les plus vertueux en fait. Ouais. Je ne dirais pas que les gens qui sont exilés d'eux-mêmes sont forcément plus gentils.
Meilleurs ou
moins que les autres. Non, c'est pas une question de vertu en fait. La vertu ne se joue pas là en fait.
Non. C'est une façon de vivre en fait, de s'habiter soi-même.
C'est une question de. Je sais pas. Moi, par exemple, oui, en effet, si je m'aime bien en même temps, en fait, je rigole bien, en fait.
Ah ouais,
mais je me supporte aussi... Enfin, non, c'est pas que je me supporte pas, en fait. C'est que... En fait, je sais pas où j'habite. Voilà, c'est ça, les faubourgs de l'exil. En fait, je sais pas où réside mon identité. Est-ce que c'est dans mon... Ce qu'on peut appeler l'âme? Est-ce que c'est dans mon corps? Est-ce que c'est dans mon esprit? Mon esprit, par exemple... Il fait subir à mon corps des choses abominables. Parce que franchement, je me cartonne la gueule à l'alcool, ma mère en pleure, enfin. Et en fait, c'est mon esprit qui a imposé ça à mon corps. Et des fois, je me dis, pauvre corps, quoi. Alors,
c'est
où réside mon identité? Ouais. Non, c'est pas un combat. C'est une sorte de grosse machine où il y a. Et je sais pas où réside. Je sais pas où réside Nicolas Kerr, en fait.
L'âme qui fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est ça? Et
je ne sais pas, à la rigueur, ça serait quelque chose qui me servirait de joker. Voilà, on dirait ça.
Un joker. Justement, un joker. Sur l'âme et l'esprit, vous vouliez revenir sur ce passage chez Laurent Ruquier, où finalement, vous avez eu un blackout, en fait, où là, c'est.
Non,
mais
il faut expliquer les choses. En
machine automatique.
Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est. Je bois pas mal, mais en fait, ce soir-là, j'avais pas beaucoup bu, en fait. J'avais bu, genre, trois fois moins que je bois d'habitude. Mmh. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a 5 heures de plateau. Mmh. Et on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller boire un coup, on ne peut pas fumer une clope. Et en fait, je m'en étais tellement fait, c'est comme je déteste les longs courriers, en fait. Ouais, c'est pareil, en fait, ça me stresse, pas pouvoir fumer, ouais. pas pouvoir bouger. Enfin, j'ai un truc un peu
claustrophobique, là. Ouais,
c'est voilà, claustro, ouais. et voilà. Et en fait, je m'en faisais tellement un truc terrible, et en fait, j'avais beaucoup moins bu que je vois d'habitude. Et au tiers de l'émission, bah, je fais un trou noir. Je me suis réveillé le lendemain dans mon lit. Je me souviens de rien. Et en fait, quand... Et après, les gens, après, ont polémiqué. Oui, ça, non, bah. Moi, je me souviens de rien. Et en fait, j'ai halluciné. Hein. Je n'avais même pas osé regarder l'émission pendant 3 jours. Et en fait, quand je l'ai vu, évidemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce clochard, quoi. Enfin, ça m'avait pas du tout fait rire. Mmh. Et le lendemain, j'étais premier du hit-parade en France. Ça n'a pas duré longtemps, je le savais. Ça a duré 3 jours. Mais bon, c'était quand même ahurissant, quoi. Bon, ouais, je ne sais quoi en penser.
C'était un peu la façon que le grand public t'a découvert.
Non, mais ça, je trouve ça génial. Ouais. Et je remercie aussi Ruquier. C'est juste qu'au tiers, j'ai pété un câble. Je ne me rappelle pas du tout de ce qui a été montré, en fait.
Ouais,
je me rappelle plus de ce que j'ai dit. J'étais vraiment dans un trou noir total.
En pilote automatique, dans son courrier.
Ah non, un trou noir. Je me suis réveillé le lendemain dans mon lit. J'ai flippé, hein. Je me suis dit, putain... Ouais. J'espère que je n'ai pas insulté tout le monde.
Non, c'est... Non,
ça... Ah non, mais je ne savais pas.
Mais tu as dit des choses intéressantes, hein, quand même, sur non, la société.
En général, il me semble que je dis des choses intéressantes. Mais cela dit, automatique, mais là, c'était pas volontaire, en fait.
Moi, je vais revenir sur un truc, sur le principe aussi de désamour de la société dans laquelle on vit.
Non, moi, j'aime bien la société française.
Ouais. Vraiment, oui, la France, vraiment. Tu l'as dit aussi, que tu aimais la France, mais que tu avais sur ce principe social de la compétition.
Non, par exemple, je ne crois pas en la fiction sociale. Ça, c'est autre chose. Par exemple, ce que j'ai vu, de ce que je racontais, je trouve que ce n'est pas ce que je pense vraiment, en fait. Alors, en fait, je ne crois pas en fiction sociale, mais j'aime les gens avec qui je vis. En tout cas, j'essaie de les aimer. En fait, ceux que j'aime pas, je les évite, tout simplement.
Bah, tu t'entoures des personnes que tu aimes bien.
Exactement. En même temps, quelqu'un qui fait chier, je l'évite, c'est tout. En fait, je vais pas lui chercher des merdes, quoi. Je m'en fous. Ouais. Mais je trouve que la société française est plutôt raisonnable. Quand même.
Ouais, on tient
tout
bien,
de même. Ouais. Je trouve qu'on tient bien le coup, quand même.
Moi, je disais, c'est vrai, on a eu les inondations, les attentats, l'état d'urgence, des manifs qui dérapent, des supporters qui crachent. Je me dis, mais ce ne serait pas un crash test pour dire aux agences de notation que la France est un super pays et que même dans des conditions extrêmes, tout va bien. Mais c'est vrai.
C'est cool, quoi.
Ouais, c'est un pays où on va bien.
Mais en fait, par exemple, ma mère est cambodgienne. Bon, elle était mariée avec mon père qui est français. Donc, on a pu quitter le Cambodge. Sinon, toute ma famille a été butée, bon, ça s'en fout. Mais tous les amis de ma mère qui ont réussi à quitter le Cambodge quand Pol Pot est arrivé au pouvoir, ils ont été accueillis sous le régime du droit d'asile. Ouais. Et en fait, il y en a toujours. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'énorme, qui a sauvé des tonnes de vies. C'est pas des réfugiés des économiques ou des conneries. Ou l'immigration, la con, on s'en fout. Il y a l'asile politique, c'est énorme. C'est un truc qui sauve la vie à plein de gens.
Sur l'immigration, justement, vous disiez que vous aviez une mère cambodgienne et un père français et vous avez fui un régime totalitaire. Aujourd'hui, on voit cette grande crise migratoire en Europe avec des réfugiés qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, des jeunes qui essayent de s'acheter une vie, de vivre, hein, qui sont souvent non accompagnés aussi, hein, qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents avec eux. Est-ce que ça a compté beaucoup pour vous, cette double culture, le fait d'avoir laissé un pays derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose là, quand vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas où j'habite, qui joue?
Non, c'est compliqué parce que mon père est français. Donc nous, on a jamais eu aucun problème. On a été évacués par le consulat dès que Pol Pot a commencé à foutre la merde. Donc on a été évacués par le consulat français, comme tous les ressortissants français au Cambodge. Donc moi, je me sens pas... Je sais pas, cette espèce de truc des boat people ou des gens vraiment qui ont fui des trucs dans des conditions absolument abominables.
Ouais. Voilà, Vous avez eu la chance d'avoir une route diplomatique.
Mon père était français, comme tous les ressentis français. Ouais. Donc je suis pas à la place. Mais il me semble surtout. Bon, déjà, l'asile politique, moi je trouve ça très bien. Après, l'asile économique, j'en sais rien. Parce que l'asile économique, bon, en même temps, il faut bien voir que. Disons, les MEDEF, ça les arrange bien d'avoir de la main-d'œuvre pas très chère. Et surtout, il faut aussi qu'il y ait qui est des gens qui relancent la natalité pour payer la retraite. Enfin, faut voir juste que c'est pas forcément des gens qui volent le fromage. Hein. Voilà, ils génèrent aussi à un niveau purement économique, ils génèrent quelque chose. Mais après, bon. Moi, j'habite à la Goutte d'Or, je vois aussi des mecs qui branlent rien.
Pas le but. La plupart des gens qui essayent de venir, justement, c'est pour trouver une vie qu'ils ne peuvent pas avoir dans un régime.
Moi, ce que j'aime, de toute façon, sur les émigrés, en fait, ce que j'adore, c'est que en fait, c'est des gens courageux. Et ça, on ne le dit jamais assez. C'est-à-dire, ces gens, ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, déjà, je trouve ça ahurissant. C'est-à-dire que moi, j'ai un passeport français. C'est que je peux aller partout. Mmh. Voilà. Un mec algérien, ghanéen, alors là, c'est encore pire. Le mec, s'il veut juste aller voir son cousin en France, il en a pour 6 mois à faire la queue au consulat.
À montrer
le fait qu'il bosse, qu'il a une feuille de salaire. Mmh. C'est une élue, quoi. Mmh. Alors que moi, je suis complètement débile et alcoolique et je peux aller n'importe où dans...
Parce que
j'ai un passeport français. Je trouve ça vraiment injuste.
C'est une injustice criante. Il y en a d'autres, des injustices. Enfin, la société.
Mais celle-là, elle est particulièrement. Ouais. Enfin, en fait, merde, on est à la base, on est. Enfin, je vais pas faire le hippie, mais on est humain, quoi.
Non, c'est vrai. Les pays, en fait, on voit bien que les frontières, elles sont là pour enfermer les gens plutôt que permettre des échanges. Hein, c'est quelque chose de difficile. Autant l'argent voyage facilement, autant les marchandises voyagent facilement, autant les hommes ont énormément de difficultés à voyager.
Oui, oui. Par exemple, le commerce, moi, ça ne me dérange pas, en fait. Le commerce, je trouve que c'est un vrai vecteur culturel. Bon, c'est comme ça. Après, moi, j'ai rien contre les commerçants. Les financiers, bon, c'est autre chose, parce que c'est la mafia, ça. Voilà. Non, ça, on n'en parle pas, c'est des enculés. Donc. Bah, ça dépend, voilà. Mais les commerçants, moi, je trouve, ils sont super.
Hein, la finance équitable aussi.
Le commerce, c'est parfait. Enfin, c'est un vrai vecteur d'humanité. Mais quand on interdit à des gens de circuler, je sais pas, je trouve ça étrange.
Bah, c'est le principe. Quand on est artiste, en fait, on produit quelque chose, c'est d'abord pour le partager. Vous, quand vous faites des chansons, c'est pour qu'elles soient écoutées. C'est pas seulement une thérapie personnelle ou l'envie d'écrire, non. C'est aussi l'envie de partager. Ça.
Ouais. À moi, quand j'écris, c'est en 5 minutes, j'écris une chanson.
Ouais, ça se fait vite.
Mais j'en ai écrit 1000 avant. mais cela dit, maintenant, j'ai pris un réflexe, et c'est certainement pas moi qui les écris.
Vous arrêtez d'écrire?
Non, je les écris, c'est moi qui compose et qui les écris. Mais je ne prétendrai pas que c'est moi, en fait. En fait, là, je suis encore pauvre, donc il faut que je gagne des thunes, donc je garde mes droits d'auteur, etc. Mais sinon, à la fin, je commence à gagner des fric, vraiment, avec... Et mes compositions et mes écrits, je mettrai écrit composé par le monde.
Tout le monde.
Ouais.
Le monde ou tout le monde?
Le monde.
Le monde. Tout ce qui vous inspire, en fait.
Ouais, c'est le monde.
Ouais.
Ça transite par moi. Moi, le truc que j'ai, c'est que j'ai une certaine sensibilité et que j'entends en fait les grésillements de.
Dans
la pensée humaine ou même des sauterelles. Enfin, je perçois une sorte de bruissement comme ça.
C'est la qualité première de l'artiste, non, justement, d'être synesthète.
Moi,
un
il
peu,
me semble, de... ça dépend. Je pense qu'il y a des gens
un transmetteur.
Qui sont agréants. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi extrêmement centrés sur leur vie. Voilà, je pense que ça dépend, en fait. Moi, en tout cas, je fais partie de ces artistes qui sont.
Alors, justement.
Qui sont. Ça me tombe comme la foudre dessus et je ne sais même pas ce que je dis moi-même.
Tu n'as pas besoin de chercher l'inspiration,
non.
En fait. C'est comme ça, au détour d'une rue.
Ouais.
Et les voyages, ça compte beaucoup dans la construction?
Non, non. Le voyage principal que je fais, il est autour de ma chambre, en fait.
C'est ça, ouais. Une révolution depuis le lit, quoi, c'est ça.
Je ne bouge pas de ma chambre.
Bed peace. Bah, c'est bien. Ouais. Tout est là, en fait.
Ouais.
Dans ta chambre, justement, tu regardes un peu, les actualités, tes coups de trucs,
sur le net.
Où tu te coupes, et sur le net, justement, qu'est-ce que...
J'ai 45 ans, depuis que j'ai 30 ans, j'ai arrêté de lire des livres, j'ai arrêté de regarder des films, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de jouer à des jeux vidéo, et en fait, j'ai dit que le net. Et c'est vraiment étrange, hein, parce que jusqu'à 30 ans, en fait, vraiment... J'allais voir tout Bergman, Tarkovsky, Fellini, mais aussi, Dario Argento, Philippe Clair, je mettais tout en fait. Mais surtout des trucs assez intello quand même. Et pareil pour la littérature, j'ai lu vraiment tous les classiques, on dirait. Je disais La Divine Comédie ou Spinoza ou des trucs comme du genre.
Bon. Aujourd'hui, c'est tout sur Internet ?
Non, à 30 ans, j'ai arrêté. Et maintenant, je lis des conneries sur Internet.
Alors, lesquelles ? C'est quoi ? C'est Topito ?
N'importe quoi. Ouais. Mais vraiment. Genre un skyblog d'une gamine de 15 ans qui raconte son prof de maths. Hein. Je suis complètement genre Homer Simpson. Quoi. Et tout, une échelle.
Et tu crois que tout le monde a fait ce parcours-là ? Beaucoup de gens maintenant sur Internet vont regarder des conneries et arrêter finalement d'aller chercher le classique, la culture classique, ou même la culture tout court, et que la culture d'aujourd'hui, c'est la culture de l'instant, le flux, le fait d'avoir des gamines...
Non, mais en fait, j'ai arrêté la culture classique, c'est parce que... Par contre, je mate quand même encore des films, je mate tous les films d'horreur, en fait. Je mate que des films d'horreur, enfin. Les films, et puis naze, quoi. Enfin, franchement, des fois, je me dis, mais pourquoi je regarde ça, quoi.
Tu voulais parler tout à l'heure des artistes, et pas forcément de ceux que t'aimes, mais ceux que t'aimes pas, ou... qui t'énerve, qui t'inspire ? Aujourd'hui, des morts, des vivants.
Non, en fait, ce que j'aime
dans le rock
pas,
ou pas.
Hein. Ce que j'aime pas, c'est que j'écoute pas.
Donc ça t'énerve pas. Je l'entends pas. T'évites ça. Voilà.
Ouais, c'est bien. Non, c'est même pas que j'évite, je l'entends pas.
Alors qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Parce que le rock, c'est un éternel recommencement.
Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Non, ça fait longtemps que j'écoute pas, comme je disais tout à l'heure. Depuis que j'ai 30 ans, j'écoute rien. Mmh. D'ailleurs, je suis très triste, hein, depuis d'écouter de la musique. Plus voir de livres ou plus voir de films, ça je m'en fous.
Mais la musique, ça te manque.
Mais ne plus écouter de musique, c'est pareil, à 30 ans, là, c'est 45 ans, donc ça fait 15 ans que j'écoute de musique. Et ça, par contre, je regrette. C'est vraiment, j'étais hyper heureux de... C'est comme, ça fait 15 ans aussi que je ne joue plus aux jeux vidéo, et ça me manque beaucoup.
Et pourquoi tu as tout arrêté à 30 ans ?
Je sais rien, parce que je pense que j'allais être la tête trop pleine. En fait. Ouais. Et il fallait que je me ménage une place pour moi.
Faire le vide, quoi, justement.
Non, parce qu'elle est vraiment farcie. juste un tout petit coin... Pour moi,
pour grandir.
Pour laisser les trucs pour moi. Ouais, quoi. Ouais. Pour que m'amuse, elle me balance des trucs. Parce que, pas que ce soit comme dans farci. Comme...
Ouais, que tu sois saturé, comme tu disais, et après, trop de data.
Sinon, il y a un moment, je me rappelle, j'étais à Jussieu, hein, j'étais gamin, quand j'avais, je sais pas, 20 ans, en études de maths. Avant, j'avais fait maths sup, en fait. Je me suis barré, parce que ça me saoulait trop. Et après, je fais vaguement un doc de maths. Et un jour, je me rappelle, j'étais à Jussieu. Et je vois sur la... J'y allais jamais. Hein, bon. Je vois sur une porte, c'est marqué études, centre d'études nietzschéennes. Je me dis, tiens, bon, parce que je connais un peu Nietzsche. Bon. Et en fait, j'ouvre la porte et je commence à parler aux gens. Et au bout d'une demi-heure, je me dis, mais quelle horreur. Alors, en fait, les gens, après, je voyais très bien que en fait, le mec, il drague la meuf. Il a 60 ans, il est avec la petite gamine. En vrai, je me dis, putain, pauvre Nietzsche, quoi. En fait, je me rends compte que vraiment, il y a des mecs qui ont la tête complètement farcie, il n'y a plus de place pour leur truc à eux.
Donc, c'est de l'utilitarisme.
Et voilà, et après ils peuvent être très, très, très cultivés. Ouais. Mais en fait, il n'y a plus de place pour les raccourcis, en fait.
Ouais, ça devient des fonctions et ça devient plus des.
Ouais,
des
moi, je trouve que la culture, il y a quand même un truc. Moi, je méfie énormément de la culture parce que pour moi, c'est le tombeau de l'art. Oui, les films, films pornographiques ou les films d'horreur, voilà, c'est deux genres que je regarde encore.
Voilà. Finalement, c'est les deux genres qui sont en fait les deux genres de la tragédie qui restent les mêmes.
En tout cas, je veux faire un film pornographique, hein, en fait, mais je sais pas si je ferai vraiment, parce que là, je me raconte un peu. Et, j'ai déjà écrit quand même. Hein. Mais par contre, c'est vraiment un film pour que les gens se branlent. C'est pas genre Gaspard Noé, je vais pas aller à Cannes, blablabla. Ce sera vraiment.
Et pourquoi
le choix de... des gros crapouilleux qui vendent ça en sex shop, quoi. Je vais pas aller refaire à Cannes l'intello qui...
Non, tu veux faire un vrai film de cul.
Ouais, vraiment.
Mais
vraiment.
Pourquoi ce choix-là du vecteur pornographie ?
Et en fait, le film d'horreur, je le fais, on est en train de le faire avec Ariel, en fait.
Donc tu fais d'abord un film d'horreur et après l'autre film de genre, tu veux faire un film de cul ?
Si je fais le premier film que je fais de ma vie, c'est un film de cul, ça a un peu trop marqué en fait. Ouais. Surtout, mais moi, ce sera vraiment un film de cul. Ouais. C'est pas genre Gaspard Noé qui se la raconte, Ouais, ou,
pas d'intellectuel,
quoi. Ouais, voilà, qui a montré ça. Et, genre, il y a une pénétration. Et qui a monté les marches de CAD. Moi, non. Moi, ça s'appelle, genre, infirmière volume 12. Et c'est vraiment... C'est vendu en C-shop, quoi.
mais sous la marque Nicolas Kerr ou avec un
oui,
pseudo?
Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais j'ai un super script, en plus.
Mais c'est donc, quand même...
C'est
quand
même une scène de cube pendant 15 minutes. Les gens, c'est pour qu'ils se branlent, quoi. C'est pas...
Mais pas un gonzo. Il y aura un scénario, quand même.
Oui, il y a un scénario très, très intelligent. Il est très, très malin.
D'accord. Très, très drôle. Mais c'est chaud-là parce que tu penses que c'est le meilleur divertissement, en fait, d'arriver à,
non, je sais
à
rien.
Capter l'audience.
J'avoue que je ne sais pas. En fait, j'ai envie de faire des films d'horreur et des films de cul.
Ça me paraît bien. Ça me rappelle un peu les cinéastes italiens des années 60, 70.
Oui,
qui faisaient le lien, absolument. Ouais,
Lucevici, ouais. Bruno Mattei, c'est fou.
Vampiros Lesbos, c'est
voilà.
Ouais, tout cela.
Jess Franco, je l'adore.
C'est un peu la même école, en fait.
Jess Franco, c'est une des idoles.
Envie de s'amuser et puis de dire des choses.
Non, Jess Franco, c'est vraiment complexe. Ouais. Bon, faut pas me lancer sur Jess Franco parce que là, j'ai des tonnes de théories alors lui sur lui.
Justement, tu dis que tu avais une théorie sur Internet.
Alors, oui.
Tu dis que maintenant, tu étais sur Internet, mais j'aimerais l'entendre.
Je vais faire court. En fait, Internet, pour moi, c'est la plus grande invention. Enfin, c'est pas que la plus grande invention. C'est lié à l'invention. Déjà, on est complètement chamboulé, mais c'est l'invention la plus violente au niveau de la façon dont on vit depuis l'imprimerie. En fait, avant, voilà, l'imprimerie, en fait, il y avait des gens, il y avait que les clercs, en gros, et les aristocrates qui avaient accès aux livres. Genre les gueux, les serfs.
C'est une
c'était forcément un culte, en fait. Il y a que les moines et les princes qui avaient accès, en fait, au savoir. Et Internet, c'est pareil. En fait, tout d'un coup, mais en fait, c'est plus étonnant que ça, parce qu'Internet, c'est la bibliothèque d'Alexandrie avec, en plus, tous les graffitis de chiottes de l'humanité.
C'est-à-dire que c'est encore mieux.
Ouais.
Parce qu'on a une vraie...
En tout cas, franchement, même des trucs comme Wikipédia, les gens, ils râlent, mais c'est incroyable, enfin.
Ouais. Toi, t'es du genre à passer la nuit sur Wikipédia, d'aller lire un
livre.
Non,
pas Wikipédia, ça me saoule. Mais ouais. C'est trop austère. Ouais. Mais voilà. Non, moi, je vais plutôt voir des trucs de crétins qui disent que...
Ah, le complot.
La reine d'Angleterre est un reptilien. Enfin,
ah, j'adore.
Là, je vais voir des conneries du genre. Ouais. Quoi. Ouais. Et je suis mort de rire. Ouais. Mais en fait, au-delà de ça, ce que je trouve très, très hallucinant, c'est... en fait, je vais sur des forums... Et en fait, c'est total, comment il s'appelle le mec là? C'est un relou. Hein. C'est un sociologue des années 70, comment il s'appelle? Il est super connu. Voilà. Et en fait, des fois, je passe la nuit à écrire, à lire sur, par exemple, un forum des éleveurs de chèvres de Virginie. Mais c'était pas des conneries, ce que je dis. C'est un forum des éleveurs de chèvres de Virginie.
Forum de tout, en fait.
Et il y a le mec qui est modérateur, qui tient le forum. Alors lui, c'est le chef. Et en fait, moi, c'est vraiment débile. Et d'un coup, tout se recrée en micro-société, en fait. Alors que c'est vraiment débile. Et en même temps, comment il s'appelle déjà ? Lévi-Strauss, voilà. Et en fait, on va vraiment... Et moi, je vais être souvent... sur les trucs qui s'appellent General Discussion. Et là, les gens, ils parlent de Donald Trump ou...
J'en sais rien. Ce qui anime le débat.
Des attentats. Ouais. Non, voilà. Des trucs gays, voilà. Et même si c'est un forum à la base où les gens se sont retrouvés parce qu'ils parlaient de l'élevage des chefs de Virginie, ce qui est vrai, je ne raconte pas des conneries, c'est un vrai truc. C'est quand même un forum sur le fromage du Poitou, j'y suis allé souvent. Non, mais vraiment, pas du Poitou.
Est-ce que tu as du coup l'impression d'être un
monstre? En fait, je vois très bien comment la société se recrée.
C'est ça.
Ouais. Avec le modérateur, le mec qui. Voilà, en fait, c'est fou. Hein.
Tu fais un anthropologue autodidacte, en fait, du présent, quoi.
Ouais, enfin, je vois pas comme ça. Ça me fait beaucoup rire, surtout.
En même temps, tu apprends. Enfin, tu es là pour voir un peu comment fonctionnent les rapports.
Non, c'est plus que je fais le troll. Enfin, pas le troll, je fais pas le troll, moi, je raconte pas des saloperies. Je dis toujours ce que je pense. Mais je trouve que c'est hyper important sur Internet de toujours raconter ce qu'on pense. Bon, mais c'est un autre débat.
Et en public.
Moi, je peux pas troller.
J'ai plus l'âge. Il y a eu ce débat justement de la haine sur Internet avec les pseudos que Denis Robert a levé, où il y avait des gens qui étaient soit des grands patrons, soit des traders qui se cachaient et qui disaient des insanités sur les réfugiés, etc.
Peu importe. Il y a vraiment tué des gens.
Et voilà. Et la méchanceté, en fait, le fait d'être anonyme permettait d'être absolument.
C'est les trolls.
Voilà. Donc, c'est la brigade anti-troll, quoi. Donc, toi.
Non, moi, je dis, en vrai. Enfin, si je poste un message sur Internet, je dis toujours ce que je pense.
Ouais.
Enfin, je trouve que c'est hyper important.
Sans te cacher derrière.
Non, et même dans la société, en fait. En fait, je trouve que ça me prend moins la tête, en fait. J'ai pas envie de calculer et tout, ça me fatigue d'avance, en fait.
Justement, est-ce que c'est pas un truc de nos sociétés contemporaines, le mensonge, le calcul, le fait qu'on est toujours dans le pas dire ou faire semblant de dire, de pas nommer les choses, de faire croire que le FN maintenant est un parti respectable, d'arriver sur des plateaux avec des experts qui n'en sont pas, enfin, et puis tout le monde est en train un peu de jouer un rôle.
Moi, je ne crois pas que ce soit récent, en fait. Je pense que la société a toujours été comme ça, en fait. En fait, moi, ça m'a vachement choqué dès que j'étais enfant, en fait. Je ne comprenais pas, en fait.
T'as des souvenirs comme ça de
oui, oui,
de
en fait, qui t'ont interloqué très malheureux quand j'étais enfant, en fait.
Pourquoi
Je sais pas, j'étais comme ça, j'étais très malheureux.
Tu sentais le mensonge des adultes, en fait.
Les gens étaient des barbares, en fait. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment compliqué, quoi. Alors que il me semblait que le monde aurait pu être plus simple, en fait. Mais même maintenant, en fait, l'humain n'a jamais disposé d'autant de ressources. Et il suffirait, je pissais dans un tonneau, quoi. Enfin, tout le monde le sait. Ces gens, les 1% les plus riches du monde, disposent de plus de 50% des ressources. Ouais. Bon, et c'est complètement délirant. En fait, la société humaine et le progrès technologique et tout, en fait, on pourrait tous vivre comme des rois. Les humains, c'est comme des fourmis, ils n'arrêtent pas de se latter, ils aiment foutre la merde. Bon. Moi, j'ai décidé de m'en foutre.
Voilà. Pas vraiment, enfin, autrement, enfin, tu le traites autrement, sans rentrer dans le débat politique.
Je le dis, parce que j'ai pas peur.
Tu t'exprimes autrement.
Mais après, j'en fais pas non plus un cheval de bataille et tout. Voilà.
Je sais pas si tu as lu sur Internet tous ces trucs sur l'intelligence artificielle ou le...
Oui, ça, c'est autre chose.
Ouais, mais est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu penses que les humains sont cons naturellement et que ça va pas dans le bon sens?
Non,
parce qu'on
c'est
reste
pas qu'ils
stupides.
Sont cons, ils sont très ingénieux.
Ouais.
Par contre, ils sont très orgueilleux. Parce que, par exemple, moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu de philosophie, hein, parce qu'ils m'énervaient, les philosophes. Par contre, on rigole bien. Je trouve qu'en fait, ils méprisent trop les animaux, en fait. Enfin, leur règne animal. Parce que moi, je dis qu'on est quand même des animaux, en fait. En fait, l'humain, c'est l'homo sapiens, c'est un singe, quoi. Voilà. Les philosophes, ce qui m'énerve chez eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir assez d'imagination. Par exemple, moi, je vis avec ma chatte depuis 20 ans. Et en fait, ils disent oui, mais ils n'ont pas d'art. Ils croient pas en Dieu, enfin en Dieu, non plus. Moi je tourne autour de Dieu, on s'en fait. Mais bon, ils ont pas de.
Pas d'âme. Enfin,
ils ont pas. Voilà. Et en fait, moi je dis, vous êtes complètement débiles. Moi je vois ma chatte, elle va sur le toit, elle pisse comme ça dans 10 endroits, et ça se trouve, elle fait une forme d'art. Ça se trouve, il y a un autre chat qui passe, il fait très beau, Picasso. Simplement, c'est nous, on comprend rien.
On voit pas, on parle pas la même langue.
En fait, je trouve ça vraiment débile. Parce qu'on est quand même des animaux. Après, nous, on fout notre termitière partout. Voilà. Mais il faut pas oublier que, par exemple, sous Paris, en fait, il y a la plus grande fourmilière du monde. En fait, elle s'étend de la Picardie jusqu'à aux Yvelines, et complètement sous Paris, il n'y a qu'une seule reine. C'est la plus grande fourmilière du monde. En fait, il y a des espèces de gros fights.
Entre
certaines de nos fourmilières qui essaient de le prendre, il y a des coups d'État, la reine qui va être renversée et tout, et nous on s'en rend pas compte, sous nos pieds.
On ne voit pas. Le monde invisible des animaux, le monde animal.
C'est comme les oiseaux, un pigeon, il voit autre chose. Quoi.
Déjà, il vole sans réacteur.
J'aime pas les oiseaux.
Mais les chats, oui.
Et j'aime pas les oiseaux parce qu'ils nous chient sur la tête et ils font mieux que moi.
Alors, tu disais... Et est-ce que tu envisages après la chanson à passer à l'écriture, un roman? Enfin, on parlait de film.
C'est ce
qu'on
m'a dit la première fois que Bernard Henry m'a rencontré. Il m'a dit, tiens, je suis bonheur que vous êtes un écrivain avant tout. Et il m'a dit, prenez votre temps. Parce que là, j'étais complètement fracasse. Hein. Enfin, franchement...
Mais donc, c'est en gestation, alors.
Non, c'est pas ça. J'étais arrivé la veille, j'étais ivre mort. Et je m'étais croulé à côté d'une fontaine, la tête par terre, dans l'herbe. Et c'est vrai, je vois, c'est une tête sur l'épaule. Et en fait, c'est Bernard Henry en maillot de bain noir, j'ai... Non, mais je voulais juste voir si vous étiez vivant. Ça va, à tout à l'heure.
Ah non, je passe. C'était Bernard Henry Lévy en maillot de bain noir.
Non, il voulait juste vérifier que j'étais vivant.
Ah, ben voilà. C'est un petit check. Bah, vivant, tu l'es, hein, c'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah. Mais du coup, tu vas prendre ton temps alors.
Mais c'est voilà, et après on a déjeuné ensemble, donc c'est la première fois que j'ai rencontré. Mm. Et il a dit, tiens, je suis heureux que vous êtes un écrivain. Mais prenez votre temps, prenez votre temps.
Donc tu vas prendre ton temps.
Ouais. J'ai 45 ans, ça va. Hein.
Ouais.
Il y a les écrivains, il y en a qui commencent à 55 ans.
Vaut mieux commencer tard d'ailleurs, il faut avoir d'expérience.
Ouais. La littérature, c'est comme le cinéma, en général, c'est plus tard. Et rock and roll, c'est bien débile, mais moi j'aime bien.
Mais la musique, ça a été le premier moyen d'expression le plus. Où tu avais un tropisme, où c'était le plus facile ou...
Non, comment... faut pas oublier que je fais du rock and roll. Je fais pas la musique.
Oui.
Rock and roll, c'est vraiment trois accords. C'est pas non plus Brahms, quoi. Même si j'adore Brahms, c'est que.
Ouais.
Voilà,
non, c'est de l'énergie, c'est pas.
Mais le rock, c'est vraiment. C'est vraiment. Ouais. C'est vraiment débile. Hein. C'est justement, c'est la beauté aussi. Hein.
Ça serait
la baronde, c'est très très beau. Hein. En trois accords, on peut dire le monde.
Sur les philosophes, tu disais qu'ils t'énervaient justement du fait d'être un peu hautain, de traiter les animaux comme ça, de voir aussi le monde d'une certaine façon.
C'est traiter les animaux, en fait.
Ouais. Mais justement, toi, tu connais bien Bernard-Henri Lévy, puisque tu travailles avec Ariel Dombal, qui le connaît depuis quelques années. Justement, comment un philosophe contemporain, qu'est-ce qui t'a apporté? De quoi vous parlez quand vous voyez?
Non, on rigole, en fait.
Ouais. Lui, il a gardé une forme d'humour.
Ah non, en fait, personne ne le connaît. Mm. C'est la personne qui il est, en fait. Mm. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement drôle et de pas du tout didactique. Et c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup plus sensible qu'on ne pense, en fait. Qui souffre vachement plus de ce qu'on raconte ou saloperie sur lui, en fait. Et c'est vraiment pas le mec qui donne des leçons, quoi. Au contraire, il écoute beaucoup. Ah bien, moi, j'arrête pas de parler. Et lui, il écoute beaucoup plus, en fait. Et en fait, il est vraiment à l'écoute, il est vraiment intéressant, en fait. Et en fait, il rigole bien aussi.
C'est ça.
Et il fait pas de blagues, en fait. Il est marrant, en fait. Alors, en fait, il est vraiment agréable. Vraiment. C'est quelqu'un d'agréable. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux aussi. Mm-hmm. Et les gens s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression que c'est une espèce de...
Non, il a une personnage public.
De matamor qui pérore. Ouais. Et c'est exactement le contraire. Ouais. Et je lui ai dit, putain, Bernard-Henri, vous devriez montrer qui vous êtes, en fait. Mm-hmm. Et il se trouve tarni, quoi. Les gens, ils préfèrent ma chemise blanche.
Les gens ont pris parti.
Je suis un connard, un gnaque, arrogant et tout. Et en même temps, c'est vrai que je suis un peu ragot. il est drôle, en fait.
Il est humain, quoi.
En fait, on rigole bien, quoi. Et il est très, très conscient de ses faiblesses, en fait.
Mmh. Ouais.
Et en fait, il est très agréable, voilà. Alors en fait, on s'ennuie pas.
Et c'est pas plus un artiste qu'un philosophe, du coup, que vous êtes retrouvé quand même...
Moi, je pense que c'est plus un poète, en fait.
Ouais. Voilà. Et vous vous retrouvez là, peut-être, sur la façon de voir le monde.
Complètement.
Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir dans la poésie parce que tu penses que c'est une recherche.
Au contraire, Raël, c'est un poète.
Ouais, complètement.
Voilà, donc c'est un salaud, quoi. Non, la poésie, ça passe pas.
C'est quoi? C'est le département recherche-développement, la poésie, avant d'arriver à sortir
quelque
chose?
Il y a des trucs sympas, genre l'amitié et l'art. C'est sympa. C'est solaire, on rigole. Quoi. L'amitié, on est amis.
Des choses simples.
L'art, c'est cool. L'art, c'est beau. Et puis, la poésie et l'amour, alors là, c'est ténèbres.
C'est le Tao, hein, le blanc, le noir.
Moi, je suis plus à côté. Je suis côté des femmes, de la poésie et de l'amour. C'est-à-dire, en fait, des abysses.
La poésie, ça a commencé à quel âge? Enfin, quand est-ce que tu t'es dit, peu importe les difficultés, les portes que j'ai toujours dans la gueule...
Bon, après la poésie, il y a un problème. Donc moi, j'ai toujours été poète, c'est comme ça. Donc après, un vrai problème, c'est la poésie, tout comme l'amour. C'est très dur à définir. Il y a même une forme littéraire française qui s'appelle la poétique. C'est-à-dire, c'est des écrivains qui disent leur définition de la poésie. Parce qu'en fait, la poésie, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Le cul, on sait ce que c'est. La bouffe, on sait ce que c'est. La drogue, on sait ce que c'est. Vous voyez, tu vois? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la poésie?
Et chacun a sa définition, en fait.
Non, c'est même dans, par exemple, dans ta vie, si tu as trois femmes, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes amours, en fait. En vrai, ça, c'est abyssal, une notion de poésie et d'amour.
C'est quelque chose de...
Oui, c'est ça. J'ai écrit une poétique, qui s'appelait « Suspendu entre ciel et terre », où je tentais de définir la poésie. Il y a plein d'écrivains français, en fait, qui ont essayé de définir la poésie.
Et toi, ta définition, alors?
Mais moi, c'est la mienne, après, parce que, bon... Je dis qu'en fait... Il y a des mecs qui se reçoivent des paquets de données dans la gueule, hein, des paquets de data, quoi. Et puis après, il faut qu'ils les gèrent. Bon. Après, il y en a, le pire, c'est qu'ils arrivent en HP. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à le processer. Et puis il y en a, et voilà. Il y en a qui sont des salauds, qui sont des gourous. Voilà. Ils disent, alors moi, je me suis pris tous les data, je vais pouvoir te mener par le bout du nez et tout. Et moi, je trouve que les plus beaux, en fait, c'est ceux qui disent on va faire de l'art et invoquer la fiction. Pour dire c'est pas vrai, en fait. Mais en fait, pour pas abuser de l'autre, en fait.
Voilà. Décrypter le réel, en fait, c'est ce que tu dis.
C'est des data qui te tombent sur la gueule. Hein. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps, en fait. Je sais pas pourquoi j'écris ça.
Processer des données et arriver à les mettre, à faire un sens.
Ça, c'est bon. Il y a des gens qui prennent ça. Ouais. Non, réel, c'est très bien, quoi.
Ouais. Toi, t'es un algorithme.
Il n'a jamais vu les extraterrestres. On sait très bien. Ouais. Mais en fait, il a très bien compris. Il arrive à capter, en fait, le bruissement du monde. Et il l'utilise pour soumettre l'autre à sa volonté. Voilà. Mais je pense que Raël est un poète. Voilà, c'est en fait dans ma définition de la poésie, il l'est, mais c'est un salaud.
Ouais, il y a plusieurs types de poètes, voilà. C'est ça, les manipulateurs, les salauds.
Je pense.
C'est un enjeu de pouvoir.
Mais oui, mais complètement. Même Hitler, on peut dire ça. En fait, il a quelque chose qui relève la poésie, même si c'est horrible de dire ces choses-là. Je déteste Hitler, c'est une crapule, c'est une ordure. Mais simplement, le mec, il perçoit le bruissement du monde. Ça passe par lui. Et le mec, c'est très bien comment...
Manipuler.
Voilà, manipuler. Ouais. Voilà. Moi, je suis transpercé par le bruit du monde. Simplement, j'invoque la fiction afin de ne pas blesser l'autre. Parce que c'est mon point. C'est comme ça que je...
Mais tu veux révéler quelque chose, du coup. Enfin, dans le bruissement du monde, tu veux le retranscrire comment toi, tu l'entends?
Moi, je le retranscris, en fait. C'est-à-dire que moi, je sais de quoi je parle à la base. Et en fait, je le pousse jusqu'à moi... Le degré où je commence à ne plus comprendre, afin que les autres puissent s'en emparer.
Donc tu pousses tes limites.
Et après, voilà, jusqu'à la limite, mais pas trop. Ouais. Parce que sinon, ça devient n'importe quoi.
Et ça, justement, les expériences de drogue...
Souvent, les gens, il y a des gens qui tout d'un coup, lisent mes paroles, par exemple, et les analysent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je ne suis pas connu. Mais bon, mais par contre, ça m'est déjà arrivé de lire, par exemple, sur Internet, un mec qui disait « Oui, c'est un petit body, ça parle de ça ». Et je trouvais qu'en fait, l'interprétation qu'il faisait du texte, moi je savais de quoi ça parlait à la base, était beaucoup plus intéressante que la mienne.
Ouais. Mais il était raccord avec ce que tu voulu transcrire.
Pas du tout.
Non. Mais finalement, il avait trouvé un sens qui était beaucoup aussi plus valable que le tien.
Non, beaucoup plus intéressant.
Voire mieux, d'accord. Ouais. Donc c'est un peu des grilles de lecture.
Voilà, c'est bien, moi. Ouais. Tout ce qu'on nomme classique, ce sont toujours les gens qui ont complètement pété l'entendement. Que ce soit Bach ou Dostoïevski et tout, c'est un mec qui est toujours choquant, en fait. Et en fait, ce qu'on nomme classique, ce sont des gens qui ont vraiment explosé, explosé les repères, en fait. Et par exemple, les artistes officiels de l'époque, genre Rimbaud, à l'époque, il chie dans les pots de fleurs de Théodore de Monville. Enfin, ça se passe bien, mais c'est un gamin. Mais voilà, et en fait, personne ne le connaissait. C'est Verlaine qui, plus tard, beaucoup plus tard, bien après sa mort, qui a écrit, l'anthologie des poèmes maudits. On voit que. Voilà, et maintenant, Rimbaud, il est enseigné. En fait, je trouve que ce qu'on nomme classique, c'est souvent, moi, je repère, c'est que c'est des choses. Qui ont foutu en l'air l'entendement de l'époque, et en même temps qui sont très lisibles. qui sont très populaires, en fait, qui sont très pop. Mmh. Voilà. Quand on écoute Brahms, c'est super lisi. Enfin, c'est super... On en entend très bien.
Il y a une logique.
Mais voilà, est-ce vraiment, que par exemple, Gainsbourg, il reprenait Brahms, c'est le... Et il en fait un tube.
Ouais, il a compris aussi, lui aussi.
Alors lui, c'est un
gros pompeur.
Alors lui, il vaut le coup.
Mais est-ce que ce n'est pas une victoire de l'artiste, justement, d'avoir été en avance, d'avoir été à un moment de casser les codes, de dire les choses, parce qu'il voyait, justement, tous les datas. C'est des mecs qui étaient comme toi et qui voyaient ça, qui les retranscrisaient. Alors à l'époque, ça faisait scandale.
Mais
ils deviennent classiques parce que finalement, ils avaient juste 50 ans.
Non, mais le classique, ça ne me mange pas. C'est ce qu'on
pour moi, c'est le fait qu'ils deviennent la culture, c'est une victoire finalement. Non,
ce qui est classique, c'est ce qui reste.
Ouais, voilà. Bon,
c'est tout. Donc c'est pour ça que je définis classique. Par exemple, pour moi, les classiques du XXe siècle en musique, ce sera certainement les Beatles, Miles Davis et Stravinsky. Bon, voilà. Le reste, ça passera dans la postérité comme des petits maîtres. Moi, je suis dégagé en cinquième division, quoi.
Ouais. du flux. Ouais, mais c'est beau. C'est le côté un peu, premier.
Mais à classique, c'est pas ça dont je parlais. Je disais que la culture, ce qui est chiant, c'est que c'est des mecs qui s'emparent de l'art. Donc, ce qu'il y a de resplendissant, de flamboyant dans l'art. Comme Ariel appelle ça, le vif argent. Et en fait, qui le font croupir au musée, il y a des gens qui se farcissent la gueule de ça, et en fait, ça devient un mode de, comment ça s'appelle, d'en foutre plein la gueule à l'autre.
La tartine.
Ils prennent l'art, ils s'en emparent, et via leur culture, ça leur permet de dire, toi, t'es un con, t'es pas cultivé.
C'est un instrument de domination, en fait.
Exactement. Et ça, je trouve ça vraiment dégueu. Parce qu'à la base, l'art, c'est vraiment quelque chose de libre et de beau. Et je trouve que des fois, il y a plein de gens qui s'emparent de l'art.
Il y a l'art brut, par exemple, des gens qui, justement, ne sont jamais pensés artistes et qui font de l'art.
Oui, ça dépend desquels. En fait, l'art, il est partout. Hein. Ouais. Après, il y a plein d'art brut que je trouve pourri, mais il y a des trucs très, très belles. Par exemple, le bail du facteur cheval, je trouve ça impressionnant. C'est magnifique.
Ouais, mais ça rejoint le tous artistes. Après, il y en a qui en font une rente, et puis il y en a qui...
Il y a aussi des débiles qui peignent des trucs, et on dit, c'est de l'art brut. Non, c'est de la merde, désolé. C'est bon, bien l'art brut.
Donc l'anticulture, alors.
Voilà, mais c'est pas forcément bon, l'art académique, ça n'est pas forcément bien non plus, ce que je veux dire. Mais bon, après, il n'y a pas de règles. Moi, par exemple, dans Pony Hawks, je bosse avec... Moi, j'ai bien des caves, je ne sais même pas lire une partition, je suis vraiment nul en musique. Enfin, en tout cas, voilà. Et les mecs de Pony Hawks, c'est que des mecs qui ont fait le concert international, et c'est vraiment des brutes. En fait, c'est super classe aussi, quoi. Ça dépend. Il y a aussi des gens qui font... Ouais, on s'en fiche. Du conservatoire. Moi, je fais mon truc sur Fruity Loops. Désolé, c'est de la merde. Tu veux pas aller loin. Après, il y a les connards aussi qui ont fait des études. Ils font du jazz, on s'en fout. Quoi. Je dis, rentre chez toi. Quoi.
Ouais, c'est l'âme que vous y mettez.
On ne sait pas. Vous voyez.
Ouais, donc la culture, la pop culture qui pose problème, quoi. C'est la masse qui pose problème.
Non, c'est la culture. En fait, la culture, pour moi, qui instrumentalise comme un lien de coercition, en fait, de l'art, qui est plus vaste, en fait.
Et justement, le...
Et après, la poésie, c'est plus nocturne. Ça, c'est vachement bizarre.
La politique ?
La poésie.
La poésie.
Là, par contre, on parle d'autre chose.
Écoutez, merci beaucoup Nicolas, merci d'être venu. On n'en a pas beaucoup parlé, mais cet album, Les Faubourgs de l'Exil,
il
est très très bien.
Très,
très belle chanson.
Des fois, je rate
pas de rock'n'roll, mais c'est un peu moins rock. Ouais, celui-là, il est beau.
Voilà, moi, je fais toujours du mieux que je peux. Je suis tellement débile que si j'ai en plus la mauvaise musique, alors là, les gens, ils me disent, mais rentre chez toi. Allez, va dormir sous un pont, quoi. Par contre, pour le coup, là, c'est vraiment le truc où je lâche rien. C'est sur l'art. Ce que je produis comme disque, peut-être plus tard des livres. En tout cas, là, je lâche rien. Je lâche tout au niveau de ma vie. Mais là, je lâche rien.
Parce que tu es perfectionniste.
Et parfois, j'ai fait des... Moi, j'ai toujours mieux que cheveux. Et je trouve que c'est toujours... Je suis très critique envers l'art. Donc, je suis très critique envers aussi ce que je fais. Et je trouve que c'est quand même pas mal ce que je fais, en fait. Artistiquement, il se trouve, je ne sais pas quel est le processus, mais en tout cas, je produis quelque chose d'assez intéressant. Et celui-là, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Voilà. Il y en a d'autres où vraiment, je n'arrive pas à les défendre, quoi.
Je suis obligé
de les défendre quand même, parce qu'ils ont transité par moi, donc je ne vais pas non plus les balancer dans une poubelle. Mais il y en a qui, des fois, ben non, c'est raté, quoi. Enfin, c'était pas... Celui-là, oui, vraiment. C'est vraiment ce que je voulais faire.
De A à Z.
Ouais, vraiment. Donc,
t'es devenu perfectionniste avec le temps?
Non, il y a une chanson que j'aime pas.
C'est laquelle?
Et en fait, après, il y a plein de gens qui disent que c'est ma préférée. Donc voilà. Bon, donc ça va.
C'est laquelle que t'aimes pas?
C'est Jericho. En fait, il y a plein de gens qui me disent non, elle est géniale, quoi, Jericho.
Ben, je vous invite à écouter l'album de Nicolas Kerr, Les Faubourgs de l'Exil, qui est sorti en ce début d'année, et qui est un très bel album, hein, selon
les dires. Oui, il est bien. Il est vraiment bien.
Du poète.
Pour le coup, il est vraiment réussi, quoi.